Bonjour. L'objectif de cette vidéo est de présenter les notions de base liées au test logiciel. En particulier, je commencerai par des aspects terminologiques avant de proposer une typologie de test et je terminerai en évoquant quelques bonnes pratiques. La première question qui se pose, évidemment, c'est pourquoi tester ? Ce que vous trouvez dans la littérature, c'est en général l'identification de trois niveaux de perte : perte de temps, perte financière, pertes humaines, qui vous donnent une idée de l'étendue du test logiciel. Ces trois niveaux de perte, vous voyez que c'est gros grain, vous voyez que vous avez des choses de nature complètement différente, mais ça vous donne une idée, donc encore une fois, de l'étendue du test logiciel, et ça doit vous amener à vous poser la question de l'impact de votre logiciel. Et c'est vraiment une notion liée au logiciel plus qu'au domaine dans lequel vous développez. Pour donner un exemple, si on s'intéresse au domaine du transport, derrière la perte de temps, vous pouvez imaginer un affichage qui fonctionne mal dans une gare, vous avez perte de temps parce que vous allez être amené, par exemple, à redémarrer la machine chargée de l'affichage. D'accord ? Donc c'est un léger désagrément qui correspond à une perte de temps. Derrière la perte financière, vous pouvez avoir l'idée que si votre logiciel d'exploitation conduit à un retard des trains, vous allez peut-être devoir rembourser des usagers. Donc ça va vous coûter de l'argent. Et derrière pertes humaines, vous pouvez imaginer que le logiciel sous-jacent, par exemple un métro automatique, a des défauts, a des bugs qui amènent à mettre en danger les usagers. Encore une fois, c'est juste un guide très gros grain, juste pour se rendre compte de l'impact que peut avoir le logiciel et de réfléchir cas par cas, parce que tout simplement, ça vous donnera une idée, pas tellement des techniques à appliquer, mais à quel point il est important de tester le logiciel et à quel point il est important de le tester exhaustivement autant que faire se peut. Qu'attendre du test ? La première chose que vous attendez du test, c'est de produire un logiciel avec moins de bugs, et ça correspond donc à un objectif de qualité. Vous aurez un logiciel de meilleure qualité si vous le testez. Mais une idée que je défends, c'est que ce n'est pas simplement pour les autres, pour les utilisateurs du logiciel, que vous avez envie de tester ce que vous écrivez. Je pense qu'il est raisonnable de dire que le test est aussi un outil personnel qui va augmenter votre productivité. Pourquoi ? Parce que si vous avez la discipline de tester au fur et à mesure que vous écrivez du logiciel, pour reprendre une idée déjà évoquée, il sera plus facile d'identifier un problème dans les 20 dernières lignes que vous venez d'écrire que dans les 10 000 lignes que vous avez écrites au fil des mois. D'accord ? Donc, avoir une approche de développement qui incorpore le test à chaque étape, c'est quelque chose qui augmentera votre productivité. Qu'est-ce que tester ? Vous trouvez peu ou prou toujours la même définition dans la littérature. Tester, c'est montrer qu'un programme se comporte comme spécifié. Pourquoi est-ce que c'est une définition qui fait consensus ? Au fond, parce que elle cache tous les problèmes. En l'occurrence, qu'est-ce qu'on entend par montrer et qu'est-ce qu'on entend par spécifier ? Dans l'écrasante majorité des cas, derrière montrer, on n'aura pas une démonstration mathématique, d'accord ? Mais on montrera par un certain nombre d'exemples, par un certain nombre de cas de test, que le logiciel se comporte comme attendu. Et derrière spécifié, dans l'immense majorité des cas, on aura une description en langue naturelle, donc en français ou en anglais, du comportement attendu du logiciel. Quand je dis langue naturelle, c'est évidemment à opposer à un formalisme tel que le formalisme mathématique. Dernier point important pour ne pas se méprendre sur ce qu'on entend par tester. Étant donné ce que je viens de dire, vous voyez bien que tester, dans la plupart des cas, ça va simplement me permettre de montrer la présence de bugs et ça ne me permettra pas de montrer l'absence de bugs. D'accord ? C'est une asymétrie qui n'a rien de spécifique au test logiciel. Si vous pensez en particulier aux sciences expérimentales, vous savez très bien que le fait de voir 100 signes blancs ne me permettra pas d'affirmer que tous les signes sont blancs. En revanche, voir un signe noir sera suffisant pour affirmer que tous les signes ne sont pas blancs. Donc vous avez la même idée en test logiciel. Vous allez pouvoir exhiber des bugs, mais vous n'allez pas pouvoir, en général au moins, montrer l'absence de bugs. Je dis en général parce que dans certains cas très particuliers, très restreints, vous pouvez procéder exhaustivement. Pensez simplement à ce qui se passe si vous voulez tester une fonction qui prend deux paramètres booléens. Ça veut dire que vous avez quatre possibilités en entrée. Vous pouvez vraisemblablement les énumérer et vérifier que votre fonction se comporte toujours comme attendu. Mais en général, le logiciel ou même la fonction que vous souhaitez tester a un nombre d'états tellement important qu'il n'est pas possible de procéder par exhaustivité. D'accord ? D'où cette asymétrie entre la capacité à montrer qu'il y a un ou plusieurs bugs et l'impossibilité à montrer l'absence de bugs. Un mot des facteurs humains liés au test logiciel, simplement parce que en général, ils servent de bonnes excuses pour ne pas tester. Certains vont éviter de tester en disant que c'est une activité qui est différente, que au fond, écrire un logiciel, ça relève de la construction. Tester le logiciel, ça relève de la destruction, au sens où vous allez chercher les bugs, chercher à montrer que quelque chose est faux. C'est une opposition qui n'est pas très convaincante, parce que, évidemment, en science, quand vous mettez en avant une théorie, la moindre des choses, c'est de vous faire l'avocat du diable et de soumettre votre théorie à un examen rigoureux. Donc, l'idée que ce serait des activités fondamentalement différentes n'est pas très convaincante. Une autre idée qui tend à disparaître dans l'industrie, c'est que, en partie, pour les raisons que je viens d'évoquer, vous aviez historiquement des équipes disjointes qui étaient chargées du développement et du test. C'est de moins en moins le cas, pour deux raisons, pas tellement pour les raisons philosophiques que je viens d'évoquer, mais les deux grandes raisons ici, ça va être la question de l'aléa moral et une question tout simplement d'efficacité, parce que si vous repensez à ce que j'ai dit sur le test comme outil de développement personnel, vous voyez bien qu'il va être plus simple à un développeur qui vient d'écrire une portion de code de l'examiner et de la tester, plutôt qu'à quelqu'un qui n'a jamais vu le code et qui peut-être ne le verra jamais. Il y avait des équipes de test qui ne voyaient pas le code, qui voyaient uniquement le logiciel fini. Or, encore une fois, vous êtes plus efficace si vous avez une idée de la manière dont le logiciel fonctionne. Et enfin, peut-être l'excuse la plus commune, mais aussi, à mon avis, la plus fausse, pour expliquer pourquoi on ne fait pas de test logiciel, c'est qu'on n'a pas le temps. C'est une distorsion de la réalité. Évidemment, à un instant donné, pratiquer le test va ralentir un peu le développement. Simplement, c'est une vision faussée de la réalité, parce que le temps que vous investissez maintenant, il vous est remboursé au centuple plus tard. Encore une fois, si vous avez une discipline qui fait qu'à chaque fois que vous écrivez 10 ou 100 lignes, vous testez ces 10 ou 100 lignes, eh bien, ça vous prend un petit peu de temps à chaque fois, mais vous ne vous retrouvez pas face à un logiciel de 10 000 lignes avec un bug à trouver dans ces 10 000 lignes. Donc en procédant par étapes, oui, vous perdez un peu de temps au fil du développement, mais vous prémunissez de la recherche de bugs sur un code beaucoup plus gros. Quelques mots maintenant sur les classifications classiques des tests. Une dimension de classification, c'est la granularité. On distingue en général trois niveaux de granularité pour les tests: tests unitaires, tests d'intégration et tests de validation de recettes. Les tests unitaires vont correspondre aux tests sur les éléments unitaires de votre programme. Pensez fonction, méthode ou classe. À l'autre bout du spectre, les tests de validation ou de recette vont porter sur l'ensemble du logiciel. Et au milieu, les tests d'intégration vont être des tests qui vont mettre en jeu plusieurs éléments unitaires. C'est-à-dire qu'on n'a pas tout le logiciel, mais on va mettre en relation quelques fonctions, quelques classes pour construire des tests un peu plus gros. Un autre élément important de classification des tests, c'est ce qu'on appelle la nature des tests. Et là, pardon, vous avez en général une dichotomie entre boîte noire et boîte blanche. Là encore, les termes ne sont pas spécifiques au développement logiciel. Vous avez un test en boîte noire lorsque vous pratiquez un test sans regarder le code. Et vous avez un test en boîte blanche, à l'opposé, lorsque, pour écrire vos tests, vous vous inspirez du code. Pour terminer, quelques mots sur les bonnes pratiques qu'évidemment vous encourage à appliquer dans vos projets. Un élément important, qui au fond est une conséquence de ce que j'ai dit sur le test comme pratique de développement, y compris personnel, qui vous rend plus efficace. Pensez au test à chaque étape du développement. Et en particulier, lorsque vous faites le design ou la modélisation de votre problème, toute chose égale par ailleurs, préférez un design qui va être plus facile à tester. Une autre pratique extraordinairement importante, c'est la question de l'automatisation des tests. Ce que vous voulez, c'est que l'exécution de vos tests soit rapide et que vous ayez un diagnostic simple qui vous dise si oui ou non votre logiciel contient des bugs. Derrière vitesse ici, je ne suis pas tellement intéressé par le temps que la machine met à exécuter les tests. Ce qui m'intéresse, c'est plutôt le temps que l'opérateur humain met à lancer les tests. Le fait que vous deviez attendre 10 minutes que les tests tournent, ça n'est au fond pas un énorme problème si ça vous a pris une fraction de seconde de lancer les tests. Ce qu'il ne faut surtout pas, c'est être dans une situation où vos tests sont manuels et vous prennent 10 ou 15 minutes, ou même beaucoup moins, même 5 minutes, c'est beaucoup trop. Ce qu'il faut, lorsque vous testez, c'est que le temps employé, ça soit du temps machine et pas du temps humain. Tout simplement parce que tester manuellement, c'est rébarbatif, et donc l'expérience prouve qu'au début, vous testerez bien pendant les 5 minutes, et puis au fil du temps, vous testerez de moins en moins, vous oublierez des cas, et c'est comme ça que des bugs échapperont à votre vigilance. Donc il est absolument crucial d'automatiser les tests et que le fait de lancer les tests vous prenne une fraction de seconde. Et derrière l'idée du diagnostic simple, il y a l'idée que savoir si les tests sont passés ou pas, ça doit également vous prendre une fraction de seconde. D'accord ? Pensez bêtement que vous avez un gros label vert ou un gros label rouge qui vous dit si tout va bien ou si ça ne va pas. D'accord. Mais il ne faut pas que vous ayez à lire 10 pages de compte-rendu de vos tests pour savoir si vous avez un bug ou pas. Et évidemment, ce que permet cette automatisation, c'est ce qu'on appelle l'intégration continue, continuous integration, et une pratique très commune dans les développements professionnels, c'est que si vos tests sont automatisés et s'exécutent rapidement, eh bien vous pouvez exécuter ces tests après chaque modification du logiciel. C'est ça l'intégration continue. Pensez qu'à chaque fois que vous ferez un push sur Git ou sur GitHub, les tests tourneront automatiquement et vous aurez un retour qui vous dira si tout va bien ou si un bug a été diagnostiqué. Évidemment, votre objectif, autant que faire se peut, c'est de tester le maximum de fonctionnalités de votre logiciel. Mais une chose en particulier que vous voulez tester, ce sont les bugs que vous rencontrez. D'accord ? Ce que je veux dire par là, c'est que lorsque vous identifiez un bug, pas par le fait d'un test préexistant, mais en utilisant votre logiciel, la première chose que vous devez faire, c'est ajouter un test qui montre l'existence de ce bug, avant même de le corriger. Et d'une certaine manière, vous saurez que vous avez terminé votre travail lorsque le test qui montrait l'existence du bug montre que le bug a disparu. Donc, le fait d'ajouter un test lorsque vous rencontrer un bug, ça vous permet, donc encore une fois, de savoir quand votre travail est terminé. Et si vous pensez à ce que je viens de dire sur l'automatisation et l'intégration continue, en ajoutant ce test à votre ensemble de tests, ça veut dire que vous êtes sûr que le bug ne reviendra pas dans une version ultérieure, ce qui est une garantie de non-régression. Enfin, un mot du TDD, Test Driven Development, qui est une pratique qui est liée assez largement aux méthodes agiles, mais qui peut être pratiquée en dehors de ces méthodes. L'idée du Test Driven Development, c'est de renverser l'ordre traditionnel dans lequel on procédait. Traditionnellement, on écrivait un morceau de code et on le testait. L'idée du TDD, c'est de faire exactement l'inverse, et de procéder de la manière suivante. J'écris un test qui échoue parce que la nouvelle fonctionnalité que je veux implémenter n'existe pas encore. Et ensuite, je sais que mon travail est terminé lorsque ce test passe, lorsque j'ai implémenté la fonctionnalité et que ce test passe. Cette façon de procéder, c'est un écho à ce que je viens de dire sur le transparent précédent sur la non-régression. Mais vous voyez aussi, et c'est la raison pour laquelle cette façon de procéder a été proposée, l'inversion des rôles, c'est que vous évitez le biais de confirmation. En effet, le risque est grand, moins on l'observe en pratique, que lorsque vous avez écrit un morceau de code, les tests que vous allez écrire pour vérifier que ce morceau de code est correct sont influencés par la manière dont vous avez écrit le code. Donc vous avez tendance à écrire involontairement des tests qui vont confirmer que tout va bien. En écrivant d'abord les tests, vous évitez ce biais.